Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont été fermés depuis quelques temps par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces établissements ne répondent pas aux normes requises, fonctionner, affirme le ministère de tutelle. Pas d'infrastructures viables, pas de laboratoires, carences de professeurs et autres. Quels sont les éléments à réunir avant l'ouverture, avant d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur? On en parle avec le professeur Kapuku Wimpi. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes vice-doyen de la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions à remplir pour ouvrir un établissement d'enseignement supérieur?
Les conditions à proprement parler n'ont jamais été bien définies. Il y a eu un ministre, je crois que c'est le ministre Colombé à l'époque, qui avait, c'est à cette époque-là que commence l'existence des universités privées. Il avait essayé un peu de circonscrire ces conditions en disant qu'il fallait que les fondateurs soient propriétaires terriens, afin qu'ils soient propriétaires de terres, et qu'il ait un plan de construction des infrastructures, et pour d'un fonds d'argent dans une banque comme.
Oui, et professeur, on n'arrive pas à vous capter très très bien. Peut-être que si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, ça peut améliorer.
Là, ça va?
Oui, là, ça va.
Oui, donc je disais que ce problème a été posé dès le début de la création de l'université privée. Je n'ai pas la date, mais c'était, je crois, le ministre Lombé ou le commissaire d'État Lombé qui était confronté à ce problème.
Oui.
Et il avait proposé, lui, qu'avant d'ouvrir une université, il fallait d'abord que les fondateurs disposent des terres. Allô?
Oui, allez-y.
Et qu'il prouve qu'il a les moyens de construire des infrastructures.
Oui.
Et qu'il ait un certain dépôt bancaire. Et que, si je me souviens bien, il fallait qu'il ait un nombre minimum d'enseignants à lui. Et c'était ça les conditions qui avaient été à cette époque-là proposées par le ministre Lombéa, qui est parti quelques temps après. Il est arrivé un autre, celui qui l'a succédé, a commencé à délivrer des arrêtés de création, moyennant paiement. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à cette situation-là.
Oui. Donc, c'était un arrêté ministériel ou bien cela a été, ça se retrouve dans la Constitution de la République?
Non, je ne crois pas qu'il y avait un arrêté. Je crois que c'était des discussions comme ça, verbales. Vous rappelez, il y avait un Haïtien qui avait une université à Matete, qui était attaché de travaux à l'université. Et à ce moment-là, ils vont commencer à manifester. Je crois que c'était vers la fin du régime du président Mobutu. Ce problème-là a été posé. Ce sont les conditions que, à cette époque-là, le commissaire d'État ou le ministre proposait. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un texte, mais je trouve ça assez logique quand même.
Oui.
C'est une institution sérieuse, c'est une affaire très sérieuse, une université.
Oui.
Quand nous mettons des enfants au monde, nous cherchons la meilleure école maternelle. Quand il arrive, on cherche la meilleure école primaire. Il ne faut pas qu'arriver à l'université, les jeunes gens soient livrés à n'importe quoi. Bien sûr, il y a des problèmes de la démographie qui s'est posé.
Oui.
Quand moi j'ai pu entrer à l'université, nous recevions nos tickets à partir du village pour venir à l'université. Et avec la bourse, donc on n'avait pas beaucoup de problèmes dès qu'on était admis. Maintenant, il s'est posé le problème que les bourses n'existent pas, le pays étant vaste, la démographie ayant été multipliée par 6 ou par 8, ça dépend des démographes. Et il fallait trouver une solution. Beaucoup de jeunes gens arrivaient à la fin de leur école secondaire, il fallait leur trouver une place dans les universités.
Oui.
Et ce besoin-là, cette nécessité-là demeure. Cette nécessité-là demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui a fait que tout le monde s'est engouffré dans la brèche en se disant on va peut-être faire un peu d'argent, mais jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait une université privée qui a fait de l'argent au point de dire que c'était une affaire.
Oui.
On sait qu'il y a eu plusieurs cas. Hein. Il y a eu des universités communautaires comme l'ancien Unibase. Il y a des universités qui ont été fondées par des évêques, des conférences épiscopales et autres. Il y a plusieurs cas.
Oui.
Mais il y a eu aussi des gens qui sont venus seulement en se disant on va me payer par étudiant autant et tout. Et vous rappelez-vous d'un certain monsieur qui avait payé Lucie. Mais c'est pas le Fonds international qui a vécu un certain temps. C'était ça sa logique. C'était une affaire, c'était un business.
Alors, professeur Kapoukou,
oui.
Vous avez dit tout à l'heure, d'après le ministre Alombe, donc, pour qu'un établissement commence à fonctionner, il faut avoir des terres, des infrastructures, construire un dépôt bancaire et des professeurs. Alors, pour parler donc d'un établissement viable, cet établissement doit répondre à ces trois ou quatre critères.
Moi, je pense que c'est important. Après, il faut évidemment des textes, il faut avoir une constitution, une vision, avec tous les documents, qu'est-ce qu'on veut faire, parce que c'est quand même une responsabilité importante de former des cadres à ce niveau-là.
Mm-hmm.
C'est très, très important, et je crois qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Et souvenez-vous que la loi cadre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement national, qui n'a jamais été abrogée, jusqu'à présent, on reconnaît seulement au sein de l'État le pouvoir de créer des enseignements supérieurs. Et regardez ce qu'on a fait au temps de l'INASA, regardez les ISP qui sont dans toute la République, il y a tout ça, il y a des laboratoires, il y a des terres, il y a des halls. Et pourquoi on n'a pas voulu avoir un plan de directeur pour continuer dans cette même lancée? On a ouvert, on a pensé que c'était des diplômes qu'on allait créer pour distribuer des diplômes.
Oui. Mais actuellement, il existe par exemple des instituts supérieurs, des établissements qui n'ont pas leur propre bâtiment, ils louent quelque part et puis bon, voilà, ils fonctionnent dans ces conditions-là. Est-ce qu'on doit dire que ces établissements doivent carrément fermer?
À mon avis, oui. Il faut quand même qu'un établissement qui vous délivre un diplôme que vous pouvez utiliser 50 ans après ait une adresse fixe. Il ne faut pas que le jour où... on vous engage aux États-Unis avec un diplôme, on vient rechercher l'adresse, le monsieur, c'est déjà devenu un bar. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une délégation des pays de Bassin du Nil qui cherchait une université américaine qui était basée à Kinshasa.
Oui.
Cette université avait juste un site, et on a passé 2 jours à chercher sa localisation précise dans la ville, et il n'y en avait pas. Hein. C'était très embêtant parce que ce monsieur était venu d'Addis Abeba pour des problèmes de formation en ligne.
Oui.
J'avais pris des contacts par email et puis quand ils sont arrivés, moi je devais me débrouiller pour leur trouver un logement au guest house de l'université et tout. Et on a cherché, on n'a pas trouvé cette université sur la ville ici. Donc vous voyez,
voilà.
c'est tout ça.
Oui.
Quand vous avez un titre qui est fermé par une institution, il faut que c'est quand même mieux que cette institution ait quelque part où elle est assise, où on peut revenir après rechercher les archives.
Oui. Voilà, nous avons professeur Kapoukou, des auditeurs vous suivent de partout et ils appellent pour poser des questions. Là, par exemple, Serge Camara nous appelle depuis Bounia, en Ituri, dans la province orientale. On va écouter sa question. Serge, bonjour.
Oui,
Serge, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, en fait, ma question est de savoir, à l'invité qui est avec vous au studio, le professeur, est-ce qu'il pourrait nous dire comme condition à remplir pour qu'on puisse ouvrir aujourd'hui les facultés de chasse enfin d'une institution bien donnée, donc les conditions ou les normes nécessaires qu'on pourrait peut-être remplir pour ouvrir les institutions ou carrément les facultés de chasse.
Merci, professeur Kapoukou.
C'est une question très intéressante, hein, parce que quand je regarde l'histoire de l'université au Congo, à partir de Monseigneur Gillon, à partir des livres, beaucoup de ces universités ont commencé par implanter la faculté de sciences, une sorte sur laquelle ça soit toutes les autres facultés de sciences et de sciences appliquées. Et malheureusement, dans les universités qu'on crée chez nous, on vise beaucoup plus le gros nombre pour avoir une grosse assiette d'argent. Et on crée des choses sans succession d'ordre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer une faculté de sciences naturelles, dans laquelle moi je travaille depuis des années? C'est un peu cher, c'est vrai. Donc, il faudrait des laboratoires, il faudrait des intrants pour ces laboratoires, et des réactifs et autres, des consommables, comme nous les appelons. Et ça, je ne sais pas vous donner des chiffres comme ça, ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut commencer par exemple par un département.
Oui.
Je crois que j'ai vu une fois Monseigneur de Bukavu qui pensait de commencer lui aussi dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il a s'il l'a fait. C'est un peu cher, hein, c'est cher. Je crois qu'un étudiant en sciences, il faut compter à peu près 5000 dollars par an, hein, pour coût de l'étudiant, comme coût de l'étudiant.
Mmh.
Et nous n'avons pas. Nous avons vécu tout le temps avec les coopérations qui nous aidaient. Et on n'a jamais, maintenant que ces coopérations considèrent que nous avons 50 ans d'âge, qu'on doit se prendre en charge, on n'a pas d'interlocuteur à qui poser les problèmes de ce coup-là.
Mmh.
Et donc, je suis content qu'il pose la question pour ça. Je sais qu'à Bounia, il y a un IST, il y a des professeurs qui étaient là, comme le professeur Camara, qui a été ministre et autres, qui était un ami. Donc, je crois que, à partir de là, peut-être qu'on peut voir qu'est-ce qu'il faut commencer.
Oui.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des sciences, mais bon, ils ne savent pas où aller parce qu'ils se disent qu'ils sont trop loin. S'il faut venir de Bounia à Kinshasa, il faut payer un ticket, il faut savoir comment vivre et tout. Tout ce problème-là, c'est ça. On devrait avoir un plan directeur de l'enseignement supérieur.
Hein. Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de OSUSA et des gouvernements de Suisse, de Suède, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Nous parlons des normes à remplir pour ouvrir un établissement d'enseignement supérieur avec le professeur Kapuku Wipi, vice-doyen de la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Professeur, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis toujours là, je vous suis très bien.
Voilà, alors, qui peut ouvrir un établissement d'enseignement supérieur? Est-ce que cette responsabilité revient seulement à l'État ou aux confessions religieuses?
Si on prend la loi cadre, il y a de l'État qui pouvait ouvrir. Depuis la transition, c'est un peu laissé comme ça.
Oui.
Et c'est aussi une bonne chose que d'autres opérateurs interviennent, mais il faut qu'ils interviennent vraiment avec le sérieux, quoi. Je ne suis pas contre, il y a des opérateurs là-dedans, notamment les confessions religieuses, il y a des communautés. Par exemple, l'ancien Unibase qui est devenu Unica, c'était d'abord une université communautaire. La communauté de la province qui s'est réunie a fait des réunions, les hommes d'affaires sont entrés dedans, les policiers sont...
Décidément, aujourd'hui, il y a un problème. Le professeur, vous êtes toujours en ligne?
Donc, en principe, je dois avoir un bon signal.
Oui, il y a quelques problèmes au niveau de la liaison téléphonique. Maintenant, je crois que ça marche bien. Donc, vous dites que depuis la transition, le champ est ouvert à tout le monde?
Oui, on a l'impression que c'est laissé comme ça à tout le monde. Et c'est sûr que maintenant, le gouvernement se réveille et se rend compte qu'il y a beaucoup de désordres.
Oui, il y a beaucoup.
C'est une bonne chose.
Oui. Mais vous avez dit, il faut avoir des terres, il faut construire, avoir des bâtiments propres.
Avoir des moyens, oui.
Oui, et un dépôt de bancaire, des moyens, il faut avoir combien pour démarrer au départ?
Ça dépend de comment on veut démarrer. Hein. Vous savez, quand Giron a commencé, il n'a pas commencé avec tout. Hein.
Oui.
Il a commencé avec une faculté et à ce moment-là, les coûts d'infrastructure et autres. Je ne suis pas constructeur, je ne suis pas aimé là-dedans, mais si vous prenez un bâtiment comme celui de ma faculté qui a été le plus ancien, construit de 54 à 56, j'imagine que vous avez au moins 2-3 millions de dollars là-dedans, hein, en construction de ces grands bâtiments à 3 niveaux, avec les laboratoires, le mobilier, les connexions téléphoniques et autres, vous ne sortez pas avec moins de ça.
Mm-hmm.
Ça dépend, mais on peut commencer avec plus petit aussi. Hein. J'ai vu l'UPC commencer avec des bâtiments plus petits que ceux de Mgr Gilon. Hein.
Oui.
Oui.
Voilà, et de préférence, il faut commencer avec quelle faculté?
Alors, en tant que professeur des sciences, si nous voulons aller vers les sciences, je préfère qu'on commence par les sciences. C'est les plus dures. Parce que ça dit que là, vous prenez le taureau par les cornes. Quoi.
Mais oui.
Commencez par les philosophies et autres. Bon, vous risquez de vous embourber parce que là, vous arriverez aux choses sérieuses, vous serez essoufflé.
Oui. Alors, par rapport au professeur, il faut avoir comme... Bon, il se pose un sérieux problème aussi des professeurs, selon les informations.
Oui, oui, c'est important. On a dit que pour moi, l'université doit avoir une âme.
Oui.
Ça a une âme. Quand vous allez à Lubumbashi, vous sentez que vous êtes à Lubumbashi. Vous allez à Louvain, vous sentez que vous êtes à Louvain. C'est le même cours, c'est la même matière, mais c'est le noyau de la place qui fixe cette âme. Et s'il n'y a pas un noyau comme ça, vous sentez que c'est des visiteurs qui passent, ça ne crée pas l'âme universitaire, ça. Il préfère quand même qu'il y ait un noyau, et c'est ce noyau qui contrôle les visiteurs. Sinon, les visiteurs, parfois, ils arrivent, tout le monde n'est pas très régulier, hein. Vous voyez, des visiteurs qui arrivent, il a un cours de 60 heures, il fait une demi-journée, le soir, il est dans l'avion, il a limite à terminer le cours. Ça, ce sont ceux qui sont sur place, les permanents, qui doivent dire à leurs collègues, c'est pas comme ça.
Voilà, donc. Et, mais nous reconnaissons qu'il se pose un sérieux problème des professeurs. Il y a d'abord la fuite des cerveaux. Certains sont partis vivre ailleurs. Certains ont pris des lâches. Certains professeurs, d'autres qui sont là, ils sont dans les extramuros. S'ils enseignent ici à gauche, à droite, pour essayer de nouer les deux bouts du mois. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de plus en plus carence des professeurs dans certains établissements.
Le problème, à mon avis, est que la République démocratique du Congo doit compter aujourd'hui à peu près 1400 docteurs à thèse. Parce que chez nous, au Congo, pour être professeur, il faut être docteur à thèse. Et si vous prenez que l'université, en moyenne, peut disposer de 300 de ces docteurs, une université qui a pratiquement 10 facultés, disons, et à ce moment-là, vous voyez que vous n'avez pas plus de 5 universités que vous pouvez fonder avec cet effectif-là.
Oui.
Donc, à ce moment-là, vous devez recourir avec des voyages, donc des visiteurs, de mobilité. On appelle ça maintenant en termes académiques, la mobilité académique. Donc, vous devez bénéficier de la mobilité académique. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut bien faire marcher une dizaine ou une quinzaine en se taillant en quatre.
Oui. Voilà, donc, patient Mibanga nous appelle, il est à Kinshasa, il voudrait poser une question. Patient, oui. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute.
Oui, bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, pasteur.
Savoir, qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer avec le système de délocalisation de certains instituts supérieurs qui n'ont pas des adresses fixes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, je ne sais pas citer les noms, il y a beaucoup d'instituts supérieurs aujourd'hui. Une année, ils sont ici, dans telle commune. Après l'autre année, ils se retrouvent dans d'autres communes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer avec ce système?
Merci, patient.
En tout cas, de mon point de vue, ça, il faudrait fermer. Hein. Il faudrait fermer pour les raisons que je vous ai données là. Le jour où ce monsieur terminera dans cette université, il viendra 20 ans après chercher un papier, il ne saura pas à qui s'adresser. Quoi. Et vous voyez tous les ridicules qu'il aura.
Donc, c'est un tel établissement doit fermer.
Pour moi, oui.
Oui, voilà, donc cet établissement doit fermer parce que il ne répond pas aux normes, il n'a pas des bâtiments, des terres et des infrastructures requises pour fonctionner. Alors, au-delà de toutes ces conditions, y en a-t-il d'autres?
Oui, je ne suis pas très au courant du ministère. Je sais qu'il y a une commission qui travaille sur l'alignement de notre d'enseignement sur les LMD et autres, quoi, parce que les Européens sont entrés dans un processus où ils devaient uniformiser leur cursus académique avec le système LMD.
Oui.
De plus en plus, nous semblons être en dehors et ça cause un peu de handicap à nos diplômés quand nous l'appelons licencié. Je me rappelle encore une fois à l'AUF, l'Agence universitaire francophone, on a envoyé des dossiers pour des gens qui devaient aller faire leur doctorat pour les bourses. Et ils avaient des diplômes de licence, alors la commission qui a siégé à l'AIF a renvoyé, elle a dit non, il faut quand même qu'ils aient une maîtrise. Il a fallu commencer à expliquer longtemps que la licence chez nous, c'est le deuxième cycle, c'est la cinquième année d'université, il fallait expliquer. Donc tout ça, je vois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui en souffrent. Les Européens qui ont le LMD. Mais il faut savoir que le LMD lui-même, même en Europe, il y a des pays à qui il pose beaucoup de problèmes.
Hein. Et c'est quoi le système LMD?
Licence, le premier cycle s'appelle licence, le deuxième cycle s'appelle master, le troisième cycle s'appelle doctorat.
C'est le système LMD.
LMD. Et beaucoup de pays, notamment le Burundi, l'ont déjà adopté. C'était le même système que nous, le système d'origine belge. Et je crois que le ministre en a parlé. Une fois, il y a eu des réunions à l'IFP Congolais, auxquelles j'ai assisté. Je crois qu'il y a une commission qui essaie de rentrer là-dedans. Je vois comment nous pouvons nous adapter à ce système-là.
Voilà, nous avons un autre auditeur en ligne, Eric Mango, de Bruit Moba. Bonjour Eric.
Oui. Bonjour.
Oui, on vous écoute Eric. Allez-y, allez-y Eric.
Oui, je voulais juste poser la question de savoir.
Oui.
Oui,
si il y a un institut supérieur ici sur place, un institut supérieur de développement rural. Alors, à cet institut, il n'y a que des assistants, il y a plusieurs assistants qui sont sur place, qui donnent cours. Est-ce que cet institut est viable ou n'est pas viable? Il n'y a aucun professeur, même pas un chef de travaux.
Un institut de Moba.
Oui.
Voilà, professeur Kapuko.
Oui, je vais répondre. Je vais répondre conformément au texte. Donc, dans les instituts supérieurs, on n'est pas tenu d'avoir des professeurs s'il n'y a pas de deuxième cycle. Et je crois que c'est à partir du deuxième cycle qu'on demande qu'il y ait des professeurs. Donc, il est tout à fait, c'est tout à fait autorisé. Beaucoup d'ISP qui ont fonctionné dans le pays ont fonctionné comme ça. Parfois, ils ont fini par dégager, obtenir des bourses pour l'un ou l'autre de nos assistants qui est un autre qui a fait un doctorat et qui est revenu. Alors, on a pu ouvrir un deuxième cycle. S'il n'y a pas de deuxième cycle, il n'y a pas de problème.
Oui, mais on le remarque, professeur, que dans certaines universités aussi, les assistants, les professeurs abandonnent les cours entre les mains des assistants qui enseignent les étudiants.
Oui, ça, il y a plusieurs directives ministérielles, je crois. Les 7 ou 8 ou 10 dernières ministres qui sont passés à l'enseignement supérieur nous ont transmis des circulaires interdisant formellement ces pratiques. Malheureusement, ça se passe encore, mais c'est interdit.
Oui, donc c'est interdit de laisser le cours entre les mains d'un assistant.
Non, ça dit qu'à ce moment-là, par exemple, il y a une disponibilité.
Oui.
Il faut faire une demande au comité de gestion. Et comment on appelle ce l'assistant enseigne le cours, mais il a une autre qualification. C'est le nom qui ne vient pas. Mais ça doit passer normalement par un document académique signé par le comité de gestion.
Voilà, donc les questions en direction composées 081-893-94. Professeur, on a remarqué que certains établissements, instituts supérieurs changent des statuts et deviennent des universités. Alors, pour qu'il y ait ces changements, quelles sont les conditions à remplir?
Je crois qu'il faut, bon, comme je vous l'ai dit, pour un institut supérieur est un enseignement para-universitaire. L'enseignement qui est para-universitaire, qui est orienté vers une formation bien spécifique. Quand on fait l'ISP, c'est pour former des professeurs de l'école secondaire. Donc, quand, par exemple, cette mission-là ne se justifie plus, il est possible que l'autorité politique décide de convertir cette institution en une autre. Nous avons connu, là se trouve le centre supérieur militaire aujourd'hui, ça s'appelait l'ENDA, quand moi j'étais étudiant, ça s'appelait l'école des droits d'administration. On m'a donné, quand on a fait du NASA, on a trouvé que c'était plus nécessaire, on a enlevé l'ENDA, on a mis les militaires là-bas. Donc, c'est tout à fait possible que l'autorité décide un moment ou un autre de convertir. Mais alors, il faudrait à ce moment-là que les programmes changent et tout change. Quoi.
Alors, le changement, c'est par rapport aux besoins?
Dans le cas de... Ça, c'est la particularité des l'enseignement para-universitaire. C'est souvent en fonction des besoins.
Oui.
Quand il n'y avait pas d'informatique, c'était pas nécessaire. Donc, les secrétaires de direction suffisaient. La machine à écrire. Bon, maintenant, il n'y a plus. Donc, quand la société change avec le temps. Donc, il peut arriver même que au sein d'une université, ce qui arrive parfois, c'est qu'on peut fermer. On peut fermer une filière de formation parce qu'elle n'est plus justifiée. Vous comprenez?
Oui.
Donc cette possibilité-là existe, il y a des procédures, je vois qu'il faut procéder à l'administration, il faut qu'il propose au ministre, etc. Il y a eu la météorologie à l'Opanium, elle n'existe plus.
Oui.
Donc, on m'a donné un peu pas justifié. Quand vous prenez les filières d'études qui ont eu lieu, au tout début, il y avait la didactique en mathématiques qui a hésité, qu'on crée les IPN et tout ça, quand on a créé les IPN, l'Opanium a fermé cette filière-là. Mais il y a eu des licenciés qui sont sortis.
Oui. Voilà, Francis Alain nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody.
Oui, votre question?
Oui, je vais demander, dans toute la condition que l'invité vient de préciser là,
oui.
Concerne seulement les grandes villes de la RDC ou le pays entier. Parce que lorsque le ministre a fermé les établissements supérieurs, il a fermé seulement dans les grandes villes. Mais il n'a pas allé au bout, juste dans les territoires un peu reculés là. Parce que je peux citer peut-être l'exemple du territoire de Bassan-Koussou, il contient moins que 4 établissements, mais il ne s'y dit pas dans de bonnes conditions, monsieur le journaliste.
oui.
Où également les étudiants entrent dans les établissements pendant 15 heures, ils sortent à 18 heures, pendant au moins 10 mois seulement, et on leur donne le brevet et le diplôme. Je vais demander, est-ce que les conditions précitées concernent seulement les grandes villes?
Merci, merci. Professeur Kapoko.
Oui, je peux répondre parce que j'ai été aux travaux préparatoires de ces commissions. Malheureusement, mon emploi du temps n'a pas permis de faire partie des commissions. Je crois que dernièrement, la commission a été dans le Katanga. Donc, c'est les moyens financiers, je crois, qui ne sont pas suffisants. Alors, il y a une rotation qui est prévue. Je crois que dernièrement, j'étais au Katanga. Je crois qu'un jour, ils seront à l'Équateur.
Oui. Et particulièrement à la Sankoutou.
La Sankoutou, c'est à l'Équateur, oui.
Voilà. Merci, professeur Kapoko Bouipi, vice-doyen de la faculté des sciences à l'Université de Kinshasa. Merci et à la prochaine.
Merci bien à vous aussi.